Radio Campus.
La musique, moi, ça me remue. Eh ben, ça tombe bien. Allez, au turf et rapido.
88.3.
Radio Campus Orléans.
À part des gens comme toi.
Pause, poésie. Pause, poésie. Poésie, poésie. Bonjour, vous êtes bien sur Radio Campus Orléans 88.3 pour le 98e numéro de Pause Poésie, toujours en compagnie de notre fidèle amie Marie Cabreval.
Bonjour.
Nous allons aujourd'hui évoquer une comète de la poésie, étoile filante, lumineuse, éclaboussante. Elle jeta mille feux, éclaira d'une lumière inouïe son époque, puis tout d'un coup, comme trop chargée d'étincelles, s'éteignit et disparut. Il est des destins qui, par leur densité, marquent notre histoire littéraire sans pour autant s'attarder longtemps parmi nous. Et pourtant, leur rayonnement nous brûle encore et leurs vers savent toujours s'emparer de nos cœurs et de nos intelligences. Sylvia Plath, née en 1932 et décédée en 1963, femme du XXe siècle, entre dans la légende fulgurante de ces astres passagers qui existent plus par la trace qu'ils ont laissée que par leur durée. Nous allons donc suivre la carrière trop brève de cette grande écrivaine américaine. Pour l'accompagner, nous écouterons la musique qui lui fut contemporaine. Thank you. Le grand Duke Ellington, 1899-1974, est celui qui a donné au jazz sa popularité et son élan. En 1932, on écoutait notamment Jazz Cocktail.
Célibataire. Or, cette fille pointilleuse, lors d'une cérémonieuse promenade en avril avec son dernier soupirant, fut soudain frappée intolérablement par le brouhaha irrégulier des oiseaux et par le désordre des feuilles. Affligée par ce tumulte, elle vit les gestes de son amoureux déséquilibrer l'air. Sa démarche s'égarait, inégale à travers une rangée de fougères et de fleurs. Elle jugea les pétales en désarroi, la saison tout entière négligée. Comme elle aspirait à l'hiver alors. Scrupuleusement austère dans son ordre de blanc et de noir, glace et roc, chaque sentiment bien circonscrit et la discipline glacée du cœur, exacte comme un flocon de neige. Mais ici, un bourgeonnement assez turbulent pour jeter ses cinq esprits royaux dans une bigarrure vulgaire. Trahison insupportable. Que les idiots titubent, étourdis, dans le chahut printanier. Elle se retira adroitement, et autour de sa maison, elle dressa une telle barricade d'obstacles et barbelés contre la saison mutinée qu'aucun homme insurgé ne put espérer la briser par jurons, poings, menaces, ni même par amour.
Fille d'Otto Emil Plath, immigré allemand, et d'Aurelia Frances Schober, américaine aux origines autrichiennes, Sylvia naît à Boston puis vit avec sa famille à Winthrop. Douée, elle publie son premier poème à l'âge de 8 ans. La même année, le 5 octobre 1940, son père, professeur d'allemand à l'université de Boston et entomologiste spécialisé dans le domaine des abeilles, meurt des suites de l'amputation d'une jambe gangrénée. Un de ses amis étant décédé d'un cancer du poumon, il s'était persuadé qu'il avait la même maladie et ne s'était pas occupé de soigner son diabète avant qu'il ne soit trop tard. À la mort de son père, elle a ce mot. Je ne parlerai plus jamais à Dieu.
Daddy, you do not do, you do not do any more black shoe in which I have lived like a foot for 30 years, poor and white, barely daring to breathe or chew. Daddy, I have had to kill you. You died before I had time, marble heavy. A bag full of God, ghastly statue with one gray toe big as a Frisco seal, and a head in the freakish Atlantic, where it pours bean green over blue in the waters off beautiful Nauset. I used to pray to recover you, ach du, in the German tongue in the Polish town, scraped flat by the roller of wars, wars, wars. But the name of the town is common. My Polack friend says there are a dozen or two. So I never could tell where you put your foot, your root. I never could talk to you. The tongue stuck in my jaw. It's stuck in a barbed wire snare. Ich, 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 ich. I could hardly speak. I thought every German was you. And the language obscene, an engine, chuffing me off like a Jew. A Jew to Dachau, Auschwitz, Belsen. I began to talk like a Jew. I think I may well be a Jew. The snows of the Tyrol, the clear beer of Vienna, are not very pure or true. With my gypsy ancestress and my weird luck, and my Tarok pack and my Tarok pack, I may be a bit of a Jew. I have always been scared of you, with your Luftwaffe, your gobbledygoo. and your neat mustache and your Aryan eye, bright blue. Panzerman, Panzerman, oh you, not God but a swastika, so black no sky could squeak through. Every woman adores a fascist, the boot in the face, the brute, brute heart of a brute like you. You stand at the blackboard, Daddy, in the picture I have of you, a cleft in your chin instead of your foot. But no less a devil for that, no, not any less the black man who bit my pretty red heart in two. I was 10 when they buried you. At 20 I tried to die and get back, back, back to you. I thought even the bones would do. But they pulled me out of the sack and they stuck me together with glue. And then I knew what to do. I made a model of you, a man in black with a Mein Kampf look and a love of the rack and the screw, and I said, I do, I do. So, Daddy, I'm finally through. The black telephone's off at the root, the voices just can't worm through. If I've killed one man, I've killed two. The vampire who said he was you and drank my blood for a year, 7 years if you want to know. Daddy, you can lie back now. There's a stake in your fat black heart, and the villagers never liked you. They are dancing and stamping on you. They always knew it was you. Daddy, daddy, you bastard, I'm through.
C'est la voix de Sylvia que nous venons d'entendre dans la lecture de son poème Daddy. Voici une traduction.
Ne fais pas. Ne fais pas, plus jamais. Chaussures noires dans lesquelles j'ai vécu comme un pied pendant 30 ans, pauvre et blanche, osant à peine respirer ou éternuer. Papa, j'ai dû te tuer. Tu es mort avant que j'en aie eu le temps. Lourd comme un marbre, un sac débordant de Dieu, grand comme un phoque de Frisco. Et une tête dans l'étrange Atlantique où se déverse grain vert ou bleu dans les eaux hors du si beau bateau Nocet. Où se déverse grain vert ou bleu. J'ai souvent prié pour te retrouver. Hardou. Dans la langue allemande, dans la ville polonaise nivelée à ras par les rouleaux des guerres, guerre, guerre. Mais le nom de la ville est commun. Mon ami polonais me dit qu'il y en a une douzaine ou deux. Aussi, je ne pourrai jamais raconter où tu avais mis les pieds, tes racines. Jamais je ne pus te parler. La langue était coincée dans ma mâchoire. Cela coince dans le piège des fils de la barbe. Ich, ich. Ich, ich, je peux difficilement parler. Je pensais que tout allemand était toi et la langue obscène. Une locomotive. Une locomotive me déportant comme un juif de Dachau, Auschwitz, Belsen. Je commence à parler comme un juif. Je pense que je devrais bien être un juif. La neige du Tyrol, la bière légère de Vienne ne sont ni pures ni vraies. Avec mes ancêtres tziganes et ma chance bizarre et mon sac de contrefaçon, je dois être un morceau de juif. Toujours je t'ai vénéré avec ta Luftwaffe, ton charabia et ta moustache si soignée. Et tes yeux d'arien, d'un bleu d'acier. Panzerman, Panzerman, oh toi. Pas Dieu, mais une croix gammée, si noire qu'aucun ciel ne pouvait glapir au travers. Chaque femme adore un fasciste. La botte sur le visage, la brute, le cœur de brute, comme une brute, comme toi. Tu es devant le tableau noir, papa, dans cette image que je garde de toi. une crevasse au menton au lieu de ton pied. Mais pas besoin du diable pour cela, non pas moins que cet homme noir qui déchire en deux mon joli cœur rouge. J'avais 10 ans quand ils t'ont mis en terre. À 20 ans, j'ai tenté de mourir et de revenir en arrière vers toi. Je pensais que les os le permettraient, enfin. Mais ils m'ont chassé du sac. Ils m'ont coincé en moi-même avec de la glu. Alors j'ai su que faire. J'ai fait un modèle de toi. Un homme en noir avec l'apparence de Mein Kampf. Et l'amour de la torture et de la baise. Et je me suis dit, je le dois. Ainsi, papa, je suis enfin au-delà. Le téléphone noir est hors des racines. Les voix ne peuvent plus se faufiler au travers. Si j'avais tué un homme, j'en aurais tué 2. Le vampire qui dit qu'il est toi et buvait toute l'année mon sang. 7 ans, si tu veux vraiment le savoir. Papa, tu peux te recoucher maintenant. Il y a un pieu dans ton cœur noir et gras. Et les gens du village ne t'ont jamais aimé. Ils dansent sur toi et te piétinent. Toujours ils ont su que c'était toi. Papa, papa. Toi, salaud.
Ce drame, la marque au fer rouge, et ce père mythique hante ensuite nombre de ses poèmes. Issu d'une famille cultivant l'ambition et le culte du travail, elle s'avère trop souvent exigeante avec elle-même comme avec les autres. Brillante élève, très précoce en poésie, on l'a vu, elle décide dès l'adolescence de devenir écrivaine.
Thank you.
Miller, 1904-1944, est une légende internationale du jazz, disparue bien trop tôt. In the Mood, créé en 1939, est l'un des plus grands standards de jazz.
Arbre d'hiver, les lavis bleus de l'aube se diluent doucement. Posé sur son buvard de brume, chaque arbre est un dessin d'herbier. Mémoire accroissant, cercle à cercle, une série d'alliances, pures de clabaudage et d'avortement, plus vrais que des femmes. Ils sont de maisons si simples. Frôlant les souffles des liés, mais plongeant profond dans l'histoire. Et longé d'elle, ouvert à l'au-delà, en cela pareil à Léda. Ô mère des feuillages, mère de la douceur, qui sont ces vierges de pitié? Des ombres de ramiers usant leurs berceuses inutiles.
En 1950, après ses études secondaires à la Gamaliel Bradford High School, grâce à une bourse d'études, elle est acceptée dans l'une des meilleures universités américaines réservées aux femmes, le Smith College, situé à Northampton, à proximité de Boston. Mais, souffrant de dépression, elle tente une première fois de mettre fin à ses jours. Plus tard, elle décrira dans son roman autobiographique « La cloche de détresse », cet épisode dépressif. Admise dans une institution psychiatrique, elle semble montrer des signes tangibles de guérison, puisqu'elle termine brillamment ses études au Smith College, obtenant en 1955 son diplôme avec la mention honorifique « Summa cum laude ». Bam bam bloom bam 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 to the boot on roof. Richard, 1932-2020, est l'un des tout premiers pionniers du rock'n'roll qui, né du jazz, va supplanter bientôt celui-ci dans les hit-parades. Tutti Frutti, né en 1955, est l'un des premiers succès du rock. Au cours de ses années universitaires, Sylvia publie des poèmes, écrit des articles pour le magazine Mademoiselle, dont elle devient une éditrice invitée et participe aux fêtes et aux bals de la vie étudiante. Sa beauté et son humour lui valent d'être unanimement appréciée. Elle est toutefois soumise à des sentiments contradictoires. Son humeur oscille sans cesse de l'enthousiasme le plus euphorique au plus profond découragement. C'est à ce stade de sa vie qu'elle s'aperçoit à quel point elle est prise en étau entre le conformisme ambiant et l'impérieux besoin de liberté et d'indépendance qui l'anime.
Je suis verticale, mais je voudrais être horizontale. Je ne suis pas un arbre dont les racines en terre absorbent les minéraux et l'amour maternel pour qu'à chaque mars, je brille de toutes mes feuilles. Je ne suis pas non plus la beauté d'un massif, suscitant des O et des A et grimé de couleurs vives, ignorant que bientôt, je perdrai mes pétales. Comparé à moi, un arbre est immortel. Et une fleur assez petite, mais plus saisissante. Et il me manque la longévité de l'un, l'audace de l'autre. Ce soir, dans la lumière infinitésimale des étoiles, les arbres et les fleurs ont répandu leur fraîche odeur. Je marche parmi eux, mais aucun d'eux n'y prête attention. Parfois, je pense que lorsque je suis endormie, je dois leur ressembler à la perfection. Pensée devenue vague. Ce sera plus naturel pour moi de reposer. Alors le ciel et moi converserons à cœur ouvert et je serai utile quand je reposerai définitivement. Alors peut-être les arbres pourront-ils me toucher et les fleurs m'accorder du temps.
En 1956, elle obtient une bourse Fulbright pour étudier en Angleterre au Newnham College à Cambridge, où elle fait la connaissance de Ted Hughes, un jeune poète anglais. Rencontre fulgurante, coup de foudre total et réciproque. Ils se marient quelques mois plus tard. Le couple, d'une grande beauté physique, attire les regards. Ted et Sylvia s'installent à Londres. Sa vie d'épouse, les soucis financiers et la dactylographie des manuscrits de Ted occupent Sylvia davantage que sa propre carrière.
Équipe de nuit. Ce n'était pas un cœur. Battant ce grondement sourd, cette stridence lointaine, pas du sang dans les oreilles, ne racolant nulle fièvre pour en imposer au soir. Le bruit venait de l'extérieur, un métal détonnant, inhérent évidemment à cette banlieue apaisée. Il ne fit sursauter personne, bien que le son ébranlât le sol par sa force de frappe. Il prit racine à ma venue, jusqu'à ce que la source grondante mise à nu et confondue d'ineptes conjonctures, encadrée par les fenêtres de l'usine d'argent de Main Street, d'immenses masses hissées, des roues tournant, ralenties, laissant retomber leur tonnage vertical de métal et de bois, étourdissant jusqu'à la moelle. Des hommes en maillot blanc tout autour, surveillant sans répit ces machines graisseuses, surveillant sans répit l'action obtuse, inlassable. Well, honey, I love too much. I need your love too much. Whoa.
A fool for your charms. Take me back, baby, in your arms. Like to hear you sighing, even though I know you're lying. Gonna love you too much. I need your loving all the time. I need your hugging. Please be mine. Need you near me. Stay real close. Please, please hear me.
Elvis Presley, 1935-1977, est l'un des plus grands musiciens mythiques de l'Amérique au XXe siècle. Too Much est number one durant 3 semaines au Hit Parade en 1956. Le couple Sylvia et Ted décide alors d'aller vivre 2 ans aux États-Unis de 1957 à 1959. Les deux poètes tentent de subsister de leurs plumes. Toutefois, Sylvia, pour faire vivre le ménage, doit occuper de petits emplois temporaires, notamment, ce qui est paradoxal, dans un hôpital psychiatrique. Elle obtient néanmoins un jour un poste d'enseignante dans son ancienne université, Smith College. Parallèlement, elle assiste à des conférences données par le poète américain Robert Lowell, au cours desquels elle rencontre Anne Sexton. Ses cours auront une influence capitale sur son œuvre. Bientôt, Sylvia attend un heureux événement, si bien qu'en octobre 1959, le couple décide de repartir à Londres, où ils vivent en symbiose absolue à Chalco Square, et s'aident mutuellement dans leur travail. Frida, leur premier enfant, naît en 1960, et leur fils Nicolas viendra au monde en 1962. Puis, Sylvia et Ted quittent à nouveau Londres pour s'installer dans la campagne anglaise, dans le comté de Devon. Ils voyagent fréquemment en France, notamment sur la côte d'Opale à Berck. Elle publie enfin son premier recueil de poèmes, The Colossus, en Angleterre en 1960. En 1961, elle fait une fausse couche, événement qui hantera par la suite bon nombre de ses poèmes.
Miroir. Je suis argenté et rigoureux. Je n'ai pas de préjugés. Quoi que je vois, je l'engloutis immédiatement, juste comme cela est, sans le voile, amour ou dégoût. Je ne suis pas cruel, seulement fidèle. L'œil d'un petit dieu à 4 coins. La plupart du temps, je médite sur le mur opposé. Il est rose, avec des mouchetures. Je le regarde depuis si longtemps que je le prends pour une partie de mon cœur. Mais il vacille. Les visages et l'obscurité à l'infini nous séparent. À présent, je suis un lac. Une femme se penche sur moi, scrutant mon étendue pour savoir ce qu'elle-même est vraiment. Puis elle se tourne vers ses menteuses, les chandelles ou la lune. Je vois son dos et le reflète fidèlement. Elle me récompense par des larmes et un mouvement de main agité. Je suis importante pour elle. Elle va et vient. Chaque matin, c'est son visage qui remplace l'obscurité. En moi, elle a noyé une jeune fille et en moi, une vieille femme s'élève vers elle, jour après jour, comme un terrible poisson.
Malheureusement, le couple peu à peu bat de l'aile et Ted et Sylvia se séparent en 1962, quelques mois après la naissance de leur dernier enfant. Cette rupture a longtemps été expliquée par la liaison de Ted avec l'épouse d'un ami poète. La publication en 2017 des correspondances de Sylvia Plath révélera les violences domestiques infligées par Ted Hughes. Celui-ci l'aurait notamment frappé, c'est ce qui aurait provoqué la fausse couche de 1961.
I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say? Treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday.
Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good.
Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Ray Charles, 1930-2004, The Genius, un des géants de la musique américaine, pionnier du soul. It's a Rock Jack, né en 1961, est l'un de ses titres les plus connus parmi tant d'autres. À l'époque de la séparation du couple, Sylvia brûle des lettres et des manuscrits de Ted. Cette période de colère et de désespoir est, curieusement, la plus productive de sa vie d'écrivaine.
Pour un fils sans père, tu auras conscience d'une absence plus tard, grandissant à ton côté comme un arbre de mort, couleur passée, un gommier australien devenant chauve, châtré par la foudre, une illusion. Et un ciel comme le derrière d'un port, un manque complet d'attention. Mais pour le moment, tu es muet. Et j'aime ta stupidité, son miroir aveugle. J'y regarde et ne découvre d'autres visages que le mien. Et tu trouves cela drôle. Il m'est bon que tu saisisses mon nez, barreau d'une échelle. Un jour, tu pourras toucher à ce qui est faux. Les petits crânes, les collines bleues écrasées, le silence infect. Jusqu'à là, tes sourires sont de l'argent trouvé.
En 1962, Sylvia Plath retourne s'installer à Londres avec ses enfants Frida et Nicolas. Et loue un appartement dans une maison autrefois occupée par le poète irlandais William Butler Yeats. Elle en est extrêmement heureuse et considère cela comme un bon présage dans le contexte du début de sa procédure de divorce. Mais l'hiver 62-63 est l'un des plus rudes du siècle à Londres. Et le 11 février 1963, au petit matin, malade et dépressive, Sylvia met la tête dans le four de la gazinière, ouvre le gaz et attend sa fin. Auparavant, elle a calfeutré la porte de la cuisine et préparé sur la table des biscuits et du lait pour ses enfants qui dorment à l'étage supérieur et qui échapperont à l'empoisonnement par le gaz. Depuis sa tragique disparition, Sylvia Plath est devenue une figure emblématique dans les pays anglophones. Les féministes voient dans son œuvre l'archétype du génie féminin écrasé par une société dominée par les hommes. Les autres voient en elle une icône dont la poésie, en grande partie publiée après sa mort, fascine, comme la bouleversante chronique d'un suicide annoncé. Son dernier poème connu, intitulé Hedge, fait figure de testament prémonitoire. Nous allons l'entendre dire ce poème, puis ensuite une traduction.
Hedge by Sylvia Plath. The woman is perfected. Her dead body wears the smile of accomplishment. The illusion of a Greek necessity blows in the scrolls of her toga. Her bare feet seem to be saying, we have come so far, it is over. Each dead child coiled a white serpent, one at each little pitcher of milk, now empty. She has folded them back into her body, as petals of a rose close when the garden stiffens and odors bleed from the sweet, deep throats of the night flower. The moon has nothing to be sad about. Stare from her hood of bone. She is used to this sort of thing. Her blacks crackle and drag.
Le bord. La femme s'est accomplie. Son corps mort porte le sourire de l'accomplissement. L'illusion d'une obligation grecque coule dans les rouleaux de sa toge. Ses nu-pieds semblent vouloir dire « Nous sommes arrivés si loin, tout est fini. » Chaque enfant mort est enroulé. Un serpent blanc, près de chacun une cruche de lait maintenant vide. Elle les a repliés contre son corps, comme des pétales d'une rose, refermés quand le jardin se fige et que les parfums saignent des douces profondes gorges de la fleur de la nuit. La lune n'a pas à s'en désoler, fixant le tout de sa cagoule d'os. Elle attend l'habitude de cela. Sa noirceur crépite et se traîne.
Son décès fut un drame non seulement pour ses enfants, mais aussi pour son ex-mari, Ted Hughes, et pour sa mère, Aurelia Plath, qui ne s'en est jamais remise. Son fils, Nicholas Hughes, souffrant de dépression, s'est suicidé par pendaison à son domicile en Alaska, le 16 mars 2009 à l'âge de 47 ans. Mais nous ne voulons pas nous quitter sur une telle note sombre et pessimiste. La poésie ne meurt jamais. Elle se renouvelle toujours et dépasse le temps. En 1963, l'année où disparaît l'une de nos plus grandes voix poétiques, voici qu'un jeune homme fait irruption sur la scène américaine et portera à sa façon la poésie universelle. Bob Dylan, né en 1941, publie en 1963 « Frailing Bob Dylan » qui porte en lui un hymne humaniste mondial « Blowing in the Wind ». Nous nous quittons avec cette musique d'anthologie, mais l'on se reverra vendredi prochain pour une autre émission de Pause Poésie, toujours sur Radio Campus Orléans 88.3. À bientôt.
Au revoir.
How many roads must a man walk down before you call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years must a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times must a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Must a man look up before he can really see the sky? Yes, and how many years must one man have before he can hear a people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows too many people have died? My friend, is a blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Radio Campus.
Oui, mais quand je veux, je peux faire aussi du bruit, moi.
Donc alors allez déranger vos voisins, dites-leur que ça va cramer de la chlope dans le faux faille, sortez dans la rue, foutez le bordel.
Voulez-vous
me foutre le camp, oui? Allez dehors!
crois. Le premier panneau que tu vois, chez ton boucher, tu vas baiser bien chat. Si ton morceau avec les doigts, prends le plus beau car tu vas l'offrir.
Pour sauver du temps, dessiner mes envies sur ton dos accident, et puis voir la tristesse, les enjeux de ma lignée qui se consument peu à peu, ici et grâce à toi. La dureté et le temps, déshabiller mes peurs dans ta chambre testament. Mais dis-moi, je veux apprendre les couleurs, les odeurs, la beauté d'un langage que je ne comprends pas.